10 décembre 2021, il est midi et vous écoutez le magazine de Canal Sud.
Venons d'entendre un morceau de harpe celtique interprété par Élise Esther, qui nous fait le plaisir d'être présente aujourd'hui dans nos studios pour venir jouer et elle a porté son instrument, son bel instrument. Bonjour Élise.
Bonjour, merci de me recevoir.
Est-ce que vous pouvez tout d'abord décrire cet instrument qui est tout neuf ?
Alors cet instrument est tout neuf, c'est une harpe celtique. En fait, je viens de changer d'instrument.
L'autre était plus petite.
L'autre était légèrement plus petite, voilà. Elle avait 30 cordes et c'était une harpe de la luthière Alison Willey, qui est basée en Ariège.
D'accord.
Et celle-ci, du coup, je l'ai achetée dans un magasin de Paris, l'Instrumentarium. Et ça reste une harpe celtique, mais elle est plus grande. Elle est plus grande, c'est-à-dire elle a...
Elle est plus haute.
Elle est plus haute et elle a 4 cordes de plus, en fait.
Non, 34.
34, voilà. Elle a 4 basses, en fait, supplémentaires. D'accord. Ce qui permet, en fait, de...
D'avoir un répertoire plus étendu.
C'est ça, d'avoir un accompagnement, de réarranger les morceaux avec plus de basses, donc un accompagnement
avec
un peu plus...
Avec plus de précision, plus de richesse.
Plus de richesse, voilà, c'est ça.
D'accord.
Voilà.
J'aimerais savoir c'est quel bois qui est utilisé. pour le pourtour, vous le savez?
Alors pour celle-ci, je ne sais pas exactement. C'est vrai que c'est une bonne question. Ma harpe précédente était en bois clair, c'était du sycomore, une sorte d'érable.
Oui.
Celle-ci, c'est pas du sycomore, elle est en couleur acajou, mais je sais pas si c'est de l'acajou, ou souvent c'est du merisier aussi. C'est vrai que celle-ci, je sais pas, comme elle est toute neuve, faudra que je regarde. C'est une Ogden de Lion Anneli.
D'accord. Et voilà. Juste pour revenir à la précédente, puisque bon, moi je vous avais rencontré jouant dans la rue avec la petite.
Avec la petite, oui.
Très souvent.
Oui.
Vous dites que c'est une luthière qui est en Ariège, c'est ça?
Oui, c'est ça. Qui est basée à Mirepoix.
Elle fait uniquement des harpes?
Oui. D'accord. Oui, une luthière de harpe.
De harpe que celtique ou l'harpe aussi de classique?
Que celtique, mais elle a plusieurs tailles. Moi j'avais une 30 cordes, c'est la taille intermédiaire. Mm-hmm. Elle a le même modèle en une taille au-dessus, à 34 cordes, et elle a un modèle plus petit à combien, 20 cordes il me semble.
D'accord.
Ou 22, je sais plus. Uh-huh. Voilà, très petite.
Et est-ce que des, puisque vous parlez de harpe très petite, est-ce que les enfants peuvent jouer sur la très petite ou pas?
Bien sûr. D'accord. Bien sûr, mais ils peuvent aussi jouer sur des grandes, en fait.
Non, parce que je sais que les violons, mettons, pour les tout petits, les violons sont tout petits, quoi.
Oui, voilà, ils ont des, ils appellent ça des demi, oui, ou des trois quarts, et après des entiers. Oui. Les harpes, c'est vrai que les enfants, on peut leur donner des plus petits, c'est plus simple pour eux. Après, moi, j'ai commencé la harpe celtique étant déjà adulte. Donc, en fait, je ne suis pas passée par ces stades d'avoir des plus petits instruments. Donc, je ne sais pas trop, en tout cas.
Mais qu'est-ce qui vous a donné envie de jouer de cet instrument, justement? Vous avez des origines bretonnes ou pas du tout?
Pas du tout.
D'accord.
J'ai des origines... En fait, à l'origine, je suis de Dunkerque.
D'accord.
Donc, je suis ch'ti. Mais donc, je n'ai rien à voir avec la Bretagne. Et en fait, au départ, j'ai commencé par le piano classique à 8 ans.
D'accord.
J'ai fait le conservatoire de Dunkerque, l'école de musique de Lille et le conservatoire de Roubaix pour finir.
Ah oui, vous avez un sacré parcours.
Ouais, après je voulais vraiment travailler dans la musique, j'ai donné des cours de piano. Et la harpe celtique, en fait, ça m'est venu à la cité de Carcassonne, la cité médiévale. Mm-hmm. J'ai habité 3 ans à Carcassonne et j'étais toujours embêtée par le piano, par le côté transport de l'instrument.
Oui, c'est sûr que c'est pas très pratique.
Voilà, je faisais du piano bar dans les restaurants et du coup j'avais du mal. Je cherchais les restaurants qui avaient déjà un piano.
Un piano, et oui. Ou alors il faut le louer, mais c'est cher.
Voilà, et puis, c'est toute une démarche.
Et puis il faut se familiariser avec lui
aussi.
Enfin,
ouais, c'est difficile. Et du coup, j'ai vu une jeune fille, je crois que j'en ai vu deux différentes jouer de l'harpe celtique à la cité de Carcassonne. Et c'est comme ça que j'ai découvert cet instrument.
D'accord.
Parce qu'à la base, comme beaucoup de personnes, je connaissais que la harpe classique,
oui,
très très grande, et du coup difficile à transporter.
Il y a des roulettes, il me semble. Enfin,
oui, il y a des chariots.
Moi,
je
sais qu'une fois, il y a une harpiste du théâtre du Capitole qui est venue ici,
oui,
et elle est venue et elle poussait. Ben, enfin, en plus, elle est petite, juste un peu plus grande que vous, mm-hmm, et c'est vrai que c'était presque démesuré, puisque la harpe classique est très haute.
Et très haute, oui, voilà. Ouais. Et du coup, j'ai découvert la harpe celtique comme ça. Et sur le coup, ça m'est pas venu tout de suite. Je pense que c'est un peu l'inconscient. Ça a mis du temps à venir. Et j'ai cherché des vidéos sur YouTube. J'ai découvert vraiment cette musique.
Mmh.
Et du coup, je suis allée dans un magasin de musique à Lyon, qui avait des toutes petites. Et j'en ai acheté une comme ça. Et en fait, ça a été vraiment un coup de foudre, quoi, pour l'instrument. Je ne l'ai plus lâché après la harpe.
Non, vous en avez eu. C'est la troisième, celle-là, si je suis
là. C'est la quatrième.
La quatrième,
ouais,
d'accord.
Ouais.
Et la troisième, c'est laquelle alors? C'est celle dont vous jouiez précédemment.
Voilà.
Et la seconde?
La seconde, c'était une harpe Salvi, 27 cordes.
D'accord. Ah, il y a vraiment toute une gamme.
Oui, il y a toute taille de cordes, en
d'accord
fait. On peut faire le nombre de cordes, mm-hmm, ça dépend de la lutherie, quoi. Et donc j'ai eu une Salvi pendant quelques temps, après j'ai acheté ma harpe de luthière, et là je voulais un modèle plus grand, plutôt pour faire des concerts, vraiment des concerts...
Musique de chambre, enfin, concert en solo.
J'ai un concert en solo, voilà, avec mes compositions, et puis aussi des reprises où je vais mélanger un peu des musiques baroques, mais aussi des musiques actuelles, des musiques de films. Et mes compositions. Et j'ai aussi un spectacle en duo avec mon copain violoniste, Raphaël Tristan, Joieville. Et du coup, ça, c'est assez frais, mais du coup, c'est plus des musiques jazz ou contemporaine, improvisée, ça sort un peu du cadre celtique.
Mais c'est un violon de jazz qu'il a ou
C'est un violon classique, d'accord. Mais il joue autant du classique que du jazz.
Et donc, puisque bon, vous étiez déjà une musicienne et que vous avez une formation très complète, est-ce que vous avez pris aussi des cours pour l'harpe celtique ou c'est vous qui avez tout ce que vous aviez appris, qui vous êtes débrouillée et qui avez cheminé comme ça
Non, j'ai vite pris des cours, j'ai vite eu besoin de prendre des cours.
D'accord.
Donc là, je suis toujours actuellement avec Marie Conan, une très bonne prof de harpe. Qui me donne des cours à Toulouse depuis.
Elle est au conservatoire ou elle est
Elle a été au conservatoire, d'accord. Je crois qu'elle a fini. Maintenant, elle est diplômée, elle est professeure de harpe. Elle a beaucoup d'élèves, elle est très pédagogue. Et du coup, ça fait 3 ans que je suis avec elle. Je prends encore des cours, voilà. Voilà.
Parce que bon, c'est un instrument très particulier.
Oui.
Malgré tout, assez rare, parce qu'il n'y en a pas, comment dire, bon, il y en a une dans les orchestres symphoniques, il y a toujours une harpe, des fois il y en a deux, selon le répertoire. Mm. Bon, ça c'est l'harpe celtique.
Oui.
Et comment dire, oui, puisque vous avez fait du piano, donc par rapport aux histoires de cordes, ce n'est pas du tout le même type. Donc comment, est-ce qu'il y a des difficultés ou est-ce que le fait d'avoir fait du piano, ça vous aide quelque part ou...
Alors oui, le piano m'a beaucoup aidée. Parce qu'il y a des points communs quand même entre la harpe et le piano. C'est-à-dire qu'on a... Le piano, c'est un clavier à plat. Et la harpe, c'est en fait comme un clavier, mais vertical. On a les notes dans l'ordre et chaque corde équivaut à une note.
De même
que les touches. Donc en fait, toutes les positions d'accords, etc. J'avais déjà pas mal de choses...
Pas mal de repères.
Grâce au piano, voilà. J'ai vite pris mes repères, ouais. Après, la technique est bien différente.
Oui, j'imagine. Oui, c'est ne serait-ce que pour la façon dont vous placez les doigts, c'est vraiment
complètement différent. Oui, c'est ça. Ça, je le travaille encore. Parce que
c'est pas... C'est assez acrobatique, je trouve, l'harpe.
Oui, on dirait, mais on a quand même beaucoup de repères.
Non, c'est très beau, c'est très gracieux, mais... D'ailleurs, je ne sais pas si c'est votre cas, mais je me souviens avec la harpiste qui était venue du Théâtre du Capitole, qui disait que très souvent, elle avait mal à l'extrémité des doigts.
Oui. C'est les cordes, ça dépend du type de corde aussi. Mmh. Et celle-ci, effectivement, c'est des cordes en boyaux. Donc
C'est-à-dire c'est naturel, c'est un...
C'est des boyaux, voilà, naturels. Quel animal, je ne sais pas.
Oui, non, mais oui, c'est ça. C'est oui, voilà, c'est...
C'est en boyaux. Oui. Et en fait, ça, c'est des cordes... c'est la même chose que les cordes de harpe classique.
D'accord.
Donc c'est ce type de cordes et cette tension, elles sont fortes. Elles sont assez tendues, en fait. Ça va donner de la corne aux doigts. Et, bon, une fois que la corne est faite, on n'a plus, plus mal non plus. C'est pas non plus une torture de jouer, quoi. Et sur certaines harpes celtiques, ma harpe précédente, elle avait des cordes en nylon et moins de tension. C'était plutôt vraiment un type celtique.
D'accord.
Donc ça faisait moins mal. Ça faisait pas cette corne-là, en fait.
C'est-à-dire que les harpes celtiques sont faites avec des matériaux artificiels, c'est ça? Les cordes, je parle.
Ouais, c'est plutôt nylon.
D'accord.
Mais ça peut être aussi boyau, en fait. Mais les celtiques, c'est plus souvent nylon. Voilà. Mais après, ça dépend vraiment de la lutherie, même la tension des cordes, etc.
Oui, j'imagine que chaque luthier a sa patte, sa...
Exactement, voilà. Et celle-ci se rapproche plus d'une tension classique, en fait.
Et vous en avez essayé plusieurs avant d'acheter celle-là, d'acquérir celle-là ?
Oui, je suis allée beaucoup.
Parce que j'imagine que c'est important, la rencontre, c'est une rencontre. Hein,
oui, j'ai eu du mal à trouver ce que je voulais. Je suis allée deux fois à Paris, deux fois une semaine entière, juste pour essayer... plein de modèles dans les magasins. Et celle-ci, au début, elle n'avait pas trop retenu mon attention. Parce que vraiment, justement, la tension des cordes est très différente. Et du coup, pour la faire sonner, j'ai pas réussi tout de suite. Et en fait, quand je suis revenue dessus...
Vous l'êtes appropriée.
Je me la suis appropriée et maintenant vraiment, je
vous êtes
familiarisée,
vous êtes parlé toutes les deux entre guillemets, ça comme ça.
Oui, oui. C'est pas évident de passer d'un instrument à l'autre.
Mais j'imagine, oui. Mais oui, parce que vous aviez vos repères, vos habitudes et puis il y a aussi une histoire commune. Enfin,
oui, il y a aussi un travail du son, du timbre avec un instrument et donc du coup, vu que là, la tension n'était pas la même, mes repères étaient était perdu.
Un peu perturbé, on
oui.
va dire ça comme ça.
Oui.
D'accord. Et donc, quand vous dites que vous aviez du mal à trouver celle que vous souhaitiez, c'était parce que vous vouliez faire, vous tourner vraiment pour vers les concerts, c'est ça, les concerts en
oui,
salle, c'est ça?
C'est ça, je voulais une harpe de concert, mais je voulais pas non plus, il y en a des encore plus grandes que ça, plus lourdes.
D'accord.
Et
elle pèse combien, si c'est pas...
Celle-ci, elle pèse 13 kilos.
Ah oui, quand même.
Ouais. Et en fait, je voulais pas non plus être handicapée comme je l'ai été avec le piano. Je voulais quand même un instrument
pouvoir
transportable.
Vous mouvoir, oui, d'accord. Oui.
Tout en ayant les basses que je voulais. Donc c'est toujours un peu compliqué, quoi. Il faut faire un choix un peu entre la taille de l'instrument et la transportabilité, quoi. Et du coup, j'ai longuement hésité à prendre une plus petite que ça. Mais en fait, celle-ci, ça
convient,
oui. Ouais. Je suis venue en transport en commun. Bon, oui. c'est assez sportif, mais
oui, oui.
Ça se fait quand même.
Elle est dans sa housse, bien
voilà.
sûr.
Elle a une housse et ça va, quoi.
Parce que en plus, là, aujourd'hui, il pleut.
Oui.
Et donc, pour les instruments à cordes, l'humidité, c'est vraiment pas le top, quoi.
Alors, l'humidité, ça va. Bon, faut pas non plus qu'il lui pleuve dessus. La housse est imperméable.
Oui.
Mais c'est plus quand c'est des temps très secs ou en plein soleil. Là, ça abîme vraiment le bois, quoi. L'humidité, ça abîme moins le bois.
Mais au niveau des cordes, ça n'a pas aussi comment dire, selon le temps qu'il fait, enfin la météo, ça n'a pas une incidence,
si,
même
si,
dans les
ça...
salles. Parce que moi, je me souviens avoir vu quelqu'un à la cave Poésie
oui.
avec une viole de gambe et qui vraiment avait du mal à l'accorder parce que c'était dans la petite cave, enfin dans la cave. Quoi.
Ah oui, j'imagine que. Oui, ça.
Parce que là, c'était à l'aide avec, par rapport aux briques de la cave, quoi, qui par définition, une cave
oui.
est plus ou moins. Humide, entre guillemets, quoi.
S'il avait du mal à l'accorder, oui, c'est que ça faisait bouger son instrument, et du coup, il devait avoir un instrument particulièrement sensible à ça, quoi. Pareil, ça dépend.
Oui, puisque ce sont des instruments hypersensibles,
oui.
de toute façon.
Oui, oui, c'est sûr que l'accordage de l'instrument, si là je joue dehors, il fait froid,
ouais.
elle va se désaccorder.
Dans un temps record, si on peut
oui,
dire.
Oui, voilà, en peu de temps, quoi.
Et donc, parce que moi, je vous ai rencontré comme ça quand vous étiez dehors, enfin
oui.
À Toulouse, au centre-ville. Quand vous dites avec le soleil, justement, si vous jouez l'été dehors, vous vous mettez dans un endroit ombragé, enfin comment...
Oui, à l'ombre, oui, oui, bien sûr, oui. Oui. Autant pour moi que pour l'instrument.
Oui, oui, oui. Oui, j'imagine, c'est pas agréable d'être en plein soleil. Bon, là, aujourd'hui, il pleut, donc c'est encore
oui,
un entre...
La pluie...
Aujourd'hui, c'est raté, je pense.
Oui, oui.
De toute façon, c'est... D'accord. Et après, est-ce que vous avez rencontré des joueurs de harpe celtique et des compositeurs qui jouent de cet instrument?
Oui, à Toulouse.
Au gré de vos rencontres, de vos diverses présentations artistiques?
Oui, ben, à Toulouse, j'avais un ami, Paul qui joue de la harpe celtique. Après, ça fait un moment qu'on s'est perdu de vue un peu avec le Covid, etc.
Ouais.
Bon, j'ai ma prof Marie Conan, qui a... C'est un petit monde quand même, la harpe celtique.
Oui, parce qu'il n'y a pas... C'est pas l'instrument le plus joué. Enfin, il n'y a pas...
Non.
On n'en croise pas tous les jours, quoi.
Non, pas trop, non. Non, non. Donc, j'en connais quelques-uns.
Oui, oui, bien sûr.
Après... Je joue pas avec d'autres harpistes.
Ah oui, vous n'avez jamais joué avec d'autres?
En duo, non. Non, non, c'est vrai que... J'ai joué avec d'autres instruments. J'ai joué avec une violoniste, Paolina. Et là, c'est plutôt... On joue encore ensemble de temps en temps des musiques traditionnelles irlandaises.
D'accord.
Elle est passionnée par ça, donc on a monté un répertoire de ça. Et je joue avec une guitariste classique que j'ai rencontrée au conservatoire de Roubaix, qui s'appelle Eléa. Et avec elle aussi, on a fait des concerts très sympas. J'ai fait beaucoup de duos, en fait.
Vous savez, avec à l'époque, vous étiez pas aussi, vous jouiez pas avec un violoncelliste dehors?
Si, 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 hein? J'ai joué aussi avec un violoncelliste pendant un an, qui est sur l'album d'ailleurs, voilà, qui
D'accord.
a fait l'album, qui a participé avec moi.
C'est un album autoproduit ou
Oui, c'est entièrement autoproduit, voilà. Ben justement, la guitariste Eléa dont je viens de parler était aussi sur l'album. On l'a fait à trois.
D'accord.
Moi, je me pose une question. Je voudrais savoir dans quel genre d'endroit ou de lieu on peut écouter de la harpe celtique. Voilà.
J'ai pas de...
Dans non. quel endroit... Ah oui,
Oui,
le casque. Dans quel endroit on peut écouter quelqu'un qui joue de la harpe celtique? C'est la question de Clélia.
Oh là, ben là, c'est... Dans quel endroit faut...
Quel genre d'endroit est-ce que, par exemple, tu te produis tu parlais tout à l'heure de un peu tu jouais dans des bars, enfin tu joues du piano dans des cafés, dans des bars. Est-ce que c'est un peu la même chose pour la harpe celtique, ou alors est-ce que tu es dans d'autres lieux culturels un peu plus dédiés?
Oui, le piano bar, c'était plus dans tout ce qui était restaurant, et puis ben les vrais piano bars authentiques, ça existe encore.
Il y en a pas beaucoup à Toulouse, mais
non, mais à ce moment-là, j'étais plutôt basée dans le nord, donc j'en avais trouvé un très beau à Arras avec un beau piano à queue où je jouais le samedi régulièrement.
Et est-ce qu'il y en a davantage de piano bar dans la région du nord ou pas? Parce que selon ça, des fois ça varie quoi en fonction des villes. Je trouve qu'à Toulouse, c'est pas très très développé
non,
les piano bar.
Non, Toulouse, il y en a pas beaucoup.
Il y en a très peu.
Dans le nord, oui, à Lille, j'en avais trouvé 2-3. Mais après, je ne sais pas si c'est moins développé dans le sud. À Carcassonne, il y en avait un où j'ai pu commencer. Et la harpe celtique, oui, c'est je vise d'autres lieux. Je vais plus viser des lieux culturels où je vais pouvoir faire un concert. En tout cas, si je suis en solo, des concerts assez intimistes. Donc oui, je cherche des lieux différents, mais je suis ouverte
à toutes les propositions.
Oui, voilà.
Enfin, diverses propositions plutôt.
Oui, voilà, divers lieux. La harpe, ça peut se marier avec beaucoup d'ambiance, en fait.
C'est-à-dire, vous pouvez expliciter.
C'est-à-dire.
Par exemple, si on invite quelqu'un à un rendez-vous où il y a de la harpe, ça peut peut-être. Encourager le fait de tomber amoureux. Est-ce que ça peut être un peu est-ce que c'est un peu un filtre d'amour?
Oui, j'aime bien
l'idée. La jolie question de Clélia.
J'aime bien l'idée, oui. C'est sûr que la harpe, elle a un côté très romantique.
Oui.
On voit beaucoup.
Déjà, c'est magnifique. Et puis le son, bon, c'est vraiment...
Le son
c'est
est...
C'est esquis, quoi.
Et,
puis après, il y a la gestuelle aussi, qui est très élégante.
Oui, la gestuelle, c'est... C'est la technique pour vraiment réussir à faire sonner les cordes, que le son soit rond et timbré. C'est vrai que la harpe, c'est ce côté romantique que j'aime beaucoup aussi, oui.
Et est-ce que la harpe, ça se joue... Désolée, j'y connais rien en harpe. Mais est-ce que ça se joue exclusivement en solo?
Non, pas du tout. Non, moi, je joue en solo. Ça se joue en solo... Parce qu'on peut...
Vous pouvez vous poser, enfin, aller où vous voulez, enfin, où vous voulez, entre guillemets, voilà, quoi.
Oui, puis c'est un instrument qu'on peut à la fois accompagner et jouer une mélodie, comme le piano. Donc, on peut le jouer seul, mais moi, j'aime beaucoup jouer aussi avec d'autres, accompagner d'autres, d'autres instruments.
Oui, je me souviens quand vous jouiez avec le violoncelliste.
Oui, voilà.
Puisque je vous avais entendu tous les deux aussi.
C'est vrai, oui. Violon, violoncelle, guitare classique. J'ai fait pas mal de collaborations. Et... Ça se joue autant en solo qu'en groupe, quoi. Voilà.
D'accord. Et je sais que notamment aussi, vous accompagnez Roland Paulin pour la danse.
Oui.
Lui, il est danseur, mais il dit des textes aussi qui sont très particuliers, puisque souvent, ça a à voir avec le théâtre non, pas que, mais souvent.
Oui.
Souvent avec des ouvrages aussi philosophiques, puisqu'il est venu récemment là 2 fois. Et donc, il y a aussi une comédienne qui lit des textes aussi, et dont vous accompagnez musicalement.
Oui, c'est ça, oui.
Et là, d'une part, j'aimerais savoir comment vous l'avez rencontré, si ce n'est pas indiscret, et puis comment vous arrivez à vous inclure dans ce trio, et comment vous composez, parce que vous composez sur le... Ça se passe comment?
Alors, Roland Paulin, je l'ai rencontré en jouant dans la rue, comme vous.
D'accord.
Voilà, c'est des...
Mis à part que moi, je me suis contentée de discuter, parce que je ne suis pas musicienne, hélas.
Ben, Roland Paulin, je l'ai croisé de nombreuses fois avant que vraiment... Oui.
Il s'arrête
Non, il s'arrêtait, il me disait bonjour, il m'expliquait...
Ce qu'il faisait.
Son local, son activité de danse. Et puis, il m'expliquait ses spectacles, parce que ça fait longtemps qu'il fait des spectacles avec des musiciens. Donc,
En petit comité, quoi. En général, c'est 3, quoi. Des fois, il y a eu 4 personnes, mais c'est rare.
Donc, c'est plutôt 3. Moi, j'ai vu qu'à 3. Oui. Et il y a une autre harpiste qui s'appelle Rebecca.
Oui. Elle qui a la harpe classique.
Qui a la classique. Féron, j'espère que j'ai
Fréron. Non, Fréron, oui, vous avez raison.
J'espère
que
j'ai
compris. Non, c'est ça, je crois.
Et du coup, j'étais venue voir ce spectacle et j'avais été très impressionnée par Rebecca. Et donc petit à petit, je suis devenue un peu plus familière avec Roland et il m'a proposé une fois
de l'accompagner dans un spectacle.
Voilà, dans un spectacle. Il faut savoir que ces spectacles, la musique est entièrement improvisée. Donc on a quand même des
Oui,
répétitions avec les comédiens.
Oui, pour s'imprégner du texte,
voilà.
De la danse, enfin de tout
l'univers,
de l'ambiance.
Les moments où on doit jouer quand même.
Et oui.
Pendant ces répétitions, en fait, je prends des notes sur quel type d'improvisation
oui.
je vais faire. Est-ce
D'accord.
que je vais faire telle tonalité, tel rythme. Je
oui,
peux prendre des notes.
Pour s'accorder le plus possible, j'imagine, avec ce qui est dansé et ce qui est dit.
Voilà, exactement, exactement. Et puis pas être complètement dans le flou, quoi.
Oui, bien sûr.
C'est
oui.
des improvisations libres, mais quand
oui.
même il faut.
Oui, qu'elles soient structurées un minimum.
Voilà. Donc ça, c'est une très bonne expérience pour moi parce que j'étais.
C'était la première fois que vous accompagnez un danseur.
Oui, danseur. J'avais une expérience dans la rue, justement, une danseuse qui avait dansé spontanément.
Comme ça.
Oui, Camille Vial.
D'accord.
Il y a une petite vidéo qui était sortie sur les réseaux,
d'accord.
qui avait beaucoup plu. Et Camille, je l'ai recroisée plusieurs fois. On a pour projet peut-être de collaborer ensemble.
Pour un spectacle, pour un duo,
un duo,
danse musique.
Un duo danse harpe. Oui, elle fait du flamenco fusion, donc fusionné
oui.
avec des styles plus modernes.
Uh-huh.
Donc c'était très intéressant de faire ça avec elle. Quoi.
Et là, puisque bon, vous dites qu'elle fait du flamenco fusion, donc différent du flamenco de base, si
oui.
je puis dire, ce que font beaucoup d'artistes à l'heure actuelle, ils réactualisent, ils relisent l'art du flamenco avec
Tout à fait, oui.
des concepts plus contemporains, dirons-nous.
Mm.
Et avec votre instrument, je pense que ce n'est pas celui-là, mais justement, comment vous aviez pu comment dire, l'accompagner, justement, puisque ce sont...
Eh ben... Comme elle était venue spontanément
danser
autour de moi, c'est elle qui s'est accordée
à vous,
à moi, voilà.
D'accord.
Mais Camille, c'est vrai que maintenant que j'en parle, pendant le deuxième, enfin, l'hiver dernier, malgré que tout était fermé,
l'hiver confinement,
voilà,
oui.
elle a réussi à organiser une semaine de laboratoire où elle a invité plusieurs danseurs et plusieurs musiciens à faire des créations justement improvisées pendant
C'était
toute une semaine.
C'était à Saint-Sernin.
Non, c'était au Vent des Cygnes.
Ah d'accord.
Le théâtre
oui, oui.
du Vent des Cygnes.
Dans le Fèvre.
Voilà. Et donc pendant une semaine, on avait fait des expérimentations de danse improvisée avec la musique. Et ça, c'était très très intéressant.
Ah
oui.
J'imagine.
Oui, oui. Oui, oui.
Mais il y avait un public.
Non, non, non.
Et oui, c'était vous en tant qu'artiste.
Voilà.
Et Anne Le Fèvre avait assisté.
Comment?
Anne Lefebvre, la dame qui a créé le lieu.
Non.
D'accord.
Non, non, c'était Camille. On était un groupe d'une dizaine, voilà, pendant une semaine. Et du coup, oui, j'ai travaillé quand même plusieurs fois avec des danseurs.
Et c'est quelque chose que vous aimeriez développer?
Oui.
Accompagner spectacle de danse?
Oui, oui, oui. De danse ou...
Et de théâtre, vous l'avez déjà fait?
Théâtre, non.
D'accord.
Jamais, non. Non, non, que j'ai fait danse, oui.
Et lecture, puisque notamment je pense à la CAF Poésie, où des fois il y a dans le cadre des 40 rugissants, il y a des lectures des fois qui sont accompagnées d'un instrument.
Oui, bah, j'ai fait justement pareil pendant l'hiver dernier, quand quasiment tout était fermé, grâce à Malika,
oui,
donc celle
oui.
qui travaille avec Roland Paulin
oui.
aussi.
Qui est marionnettiste, comédienne.
Voilà, et qui est proche de la CAF Poésie.
Oui.
Elle m'avait invitée à jouer pendant une lecture de texte. C'était la correspondance entre Anaïs Nin et Henri Miller. C'est
D'accord.
un livre
mm-hmm.
qu'elle lisait avec un mm-hmm. collègue à elle. Et moi, j'ai fait des interventions.
Et vous faisiez des ponctuations
improvisées également.
Oui, voilà. Sur le moment. Donc, vous,
oui.
vous aviez répété avant, j'imagine.
Non, là, c'était vraiment... Elle m'avait appelée au dernier moment.
Sur le vif.
Oui, voilà.
Donc, vous vous imprégnez de l'ambiance, de la correspondance entre Anaïs Nin et Henri Miller.
Elle m'avait donné le texte quand
D'accord.
même quelques jours avant,
ah,
mais
oui.
on n'avait pas répété à trois du tout. Je ne savais pas du
mais
tout.
Vous aviez lu le texte avant quoi.
Oui,
D'accord.
voilà, j'avais
ouais.
lu le texte une fois.
Et là, quelle couleur aviez-vous donné, musicalement parlant?
Là, j'avais donné une couleur assez sombre, parce que c'était un jour où, pendant le confinement, c'était difficile.
Oui.
Donc, j'avais pas trop le moral.
D'accord.
Du coup, j'avais pas forcément donné une couleur joyeuse, quoi.
Mm-hmm.
Et puis là, De toute façon, la correspondance en question, c'était quand même quelque chose d'un peu agité.
Oui,
c'était une relation agitée qu'ils
c'était
avaient.
C'était des sacrés personnages, tous les deux, oui, on va dire ça comme ça.
Donc, voilà. Je me
très suis... riche, très intéressant, mais bon, oui.
Mais agité, voilà. Oui. Donc, je suis partie
on peut
sur
dire ça
ce côté-là. Un peu de... pas de confrontation, mais un peu quand
oui,
même. Elle,
oui.
Elle lui reprochait beaucoup de choses par écrit, donc...
Oui, il y a les... Et justement, quel a été votre ressenti d'accompagner comme ça une lecture? C'était dans la cave en bas, j'imagine.
Oui, oui, voilà. Et ben, j'ai beaucoup aimé l'expérience. J'ai beaucoup aimé l'expérience. Oui, là, le côté improvisé, justement, les spectacles de Roland Paulin. La toute première fois que je l'ai fait, j'avais très peur de l'improvisation.
Oui, j'imagine.
J'en faisais quasiment pas. Et du coup, un spectacle entier où je fais que des improvisations.
Vous êtes seule comme musicienne en plus,
oui, voilà.
Avec votre instrument.
Et en fait, ça m'a fait beaucoup de bien. Ça m'a fait prendre confiance en moi par rapport à ça. Et depuis maintenant, quand on me propose ça, d'improviser,
vous répondez,
ça me fait plaisir, quoi, parce que c'est vraiment de l'expression. J'aime beaucoup dire que c'est de l'expression pure.
Spontanée, enfin, c'est quelque chose sur le moment, sur l'état du moment, sur
sans
votre ressenti du moment.
Exactement, oui. Oui, sans contrainte. Et on va où on veut. Les gens, ils vont suivre, en fait. Si c'est sincère, si c'est spontané, les gens, même si c'est un peu étrange ou...
Oui, ils se laissent porter.
Oui, ils se laissent porter si c'est sincère, oui.
Je vous propose alors soit une pause musicale de la part de Clélia, c'est-à-dire avec un disque, soit si vous voulez jouer de nouveau, et après nous continuerons la conversation. Okay. Si vous voulez jouer de nouveau, c'est possible.
Oui, je veux bien,
ouais.
Oui.
Alors, je vous laisse jouer.
Je laisse le casque, du coup.
Peut-être, oui.
Oui.
Enfin, parce que c'est comme vous vous sentez le plus confortable et pour vous. Faites comme...
Ouais, je veux bien, ça va être.
Oui, mais alors nous allons vous écouter.
Merci.
De nouveau, avec plaisir.
Merci.
C'est nous qui vous remercions. D'accord. Thank you. Merci beaucoup. Merci. Vous pouvez nous parler du choix de votre jeu ?
Du choix du morceau ?
Oui.
C'est un morceau de mon album qui s'appelle Chat sauvage.
Ah, c'est pour ça qu'il y a un joli chat sur la pochette.
Voilà, c'est le morceau qui a donné la pochette de l'album. D'accord. C'est un morceau que j'aime beaucoup.
D'accord. Et quand vous composez, quelles sont vos sources d'inspiration, si je puis dire, vos influences ?
Tout ce que j'écoute, tout ce que je peux...
Tout ce que vous voyez.
Oui, tout ce que je vois, tout style de musique.
Tout contribue à...
Oui, autant les autres harpistes que d'autres styles de musique qui n'ont rien à voir.
Et vous composez uniquement à l'harpe ?
Non, je compose plus au piano qu'à
l'harpe.
Oui,
d'accord.
Oui.
Et après, vous retranscrivez, on dit comme ça.
Oui, voilà. Mais des fois, parfois, je compose directement avec la harpe. Mais c'est vrai que pour cet album-là, je suis plus passée par le piano. Mm-hmm. Parce que
c'est plus facile.
Oui, c'est plus facile pour moi. Je suis quand même plus à l'aise techniquement avec un piano.
Ah oui, parce que vous en avez fait pendant de nombreuses années.
Voilà.
Bon, c'est une autre attitude, un autre registre.
Oui. D'accord. Mais après, c'est très facile de le passer à la harpe. Ou inversement, quoi.
Et quand tout à l'heure, vous disiez que vous aviez rencontré l'autre harpiste avec qui danse des fois Roland Paulin, est-ce que vous avez joué ensemble avec elle, l'harpe classique, et vous, l'harpe celtique ?
Non, jamais. Non, jamais.
Vous n'avez pas comme projet d'avoir les deux sonorités
Pas encore, mais ça pourrait très bien se faire.
Parce que ce serait intéressant, le dialogue entre les deux instruments qui sont tout différents, même s'il y a une base commune. Mais...
Oui, mais c'est vrai que ça peut être intéressant d'avoir les deux types de harpe, tout à fait, oui. Oui. Je pense à Park Stickney, je l'ai vu en concert, c'est un harpiste de jazz, et lui sur scène, il a les deux. Il a la classique et la celtique. Mm-hmm. Et il y avait eu un morceau très, très drôle où il joue vraiment avec les deux harpes en même temps.
D'accord.
Une main sur l'une, une main sur l'autre. Et donc c'est intéressant.
Ah oui, c'est intéressant, effectivement, oui. En plus, donc les deux... Oui. Une main sur une harpe, une main sur l'autre.
Oui, il me semble, dans mon souvenir, c'était ça. Oui.
Ah oui, mais c'est...
Donc, avec Rebecca, on pourra faire une collaboration si l'occasion se présente. Oui.
Et est-ce que vous avez été déjà invité, mettons, par des gens qui jouent dans les orchestres de chambre ? Est-ce que ça vous est arrivé qu'on vous sollicite ?
Non, ça non.
D'accord. Non. Et est-ce que vous auriez envie d'aller vers eux ? Parce que des fois, c'est il y a trois musiciens. Des fois, ça dépend des morceaux, forcément.
Oui, tout ce qui est après musique baroque, j'aime beaucoup. J'ai pas encore eu l'occasion, c'est vrai. Que l'occasion ne s'est pas présentée, mais... Parce que je fais de l'harpe depuis 5 ans maintenant. Donc, c'est pas non plus depuis si longtemps que ça. Donc, ça commence à faire, mais j'ai pas eu l'occasion de faire des ensembles. Mmh.
Non. Et est-ce que vous avez déjà rencontré, parce qu'il aime bien marier les différents instruments, et puis il est très curieux, le directeur artistique de Toulouse les Orgues ?
Non.
Parce que, donc, il est organiste, forcément, mais il a invité des percussions, enfin, dans le cadre du festival, quoi, parce qu'il aime bien faire rencontrer des instruments différents, des univers différents.
D'accord. Non, je ne connais pas.
Il a un nom, c'est un monsieur qui est suisse, il a un nom un peu compliqué. C'est Yves Rachtenberg. Attendez, je vais essayer de le retrouver. Parce que je l'ai interviewé plusieurs fois. Yves Rachtenberg, je crois. Enfin, j'espère que je n'écorche pas trop son nom. Et c'est quelqu'un comme ça de très dynamique et qui vraiment fait se rencontrer des univers qui au départ pourraient paraître n'avoir pas de point commun. Et puis le résultat est toujours... Puis il est passionné, il est toujours dans la recherche, enfin de montrer que l'orgue, ce n'est pas quelque chose de désuet, que ça peut s'accorder avec d'autres instruments.
Oui, oui. Ah oui, c'est intéressant. Oui,
donc voilà, bon, je pensais à ça. Oui, pardon. Oula, Clélia se bat avec le micro.
Oui, c'est Yves Rachtenberg.
Voilà, oui, Rachtenberg. Si vous avez l'occasion de le rencontrer, c'est vraiment quelqu'un comme ça de très sympathique, de très dynamique, qui a comme ça mille idées à la minute, si on peut dire. Il est bouillonnant. Depuis qu'il a pris les rênes du festival, les orgues, comment j'ai dit, le festival des orgues. Toulouse les Orgues, voilà. Il a fait comme ça, faire se rencontrer des musiciens qui ne s'étaient jamais rencontrés.
D'accord, mais je prendrai son...
Voilà,
son
si contact. Vous allez sur son site, vous verrez.
Et... Ah oui, j'irai voir. Je prendrai son contact.
Donc, oui, puisque tout le morceau dont c'était chat, comment vous avez dit?
Chat sauvage.
Chat sauvage. Donc, il faut dire que la pochette du CD, c'est un magnifique matou roux avec des
Merci.
yeux verts. Il est beau, il est magnifique. Et vous pouvez nous dire qui c'est qui a
Alors,
fait cette peinture?
c'est une amie qui s'appelle Maria Delarue. C'est son nom d'artiste,
Oui.
voilà, qui elle fait principalement des aquarelles. Et
D'accord.
je l'avais rencontrée sur un marché en Ariège. C'était pas Mirepoix, mais c'était, je crois que c'est Montbrun-Bocage, mais je sais
Oui,
plus. J'en
où
faisais
il y a une
plusieurs.
rencontre, il y a des rencontres littéraires, hein? Montbrun Bocage,
Je
il me
sais
semble.
pas, mais en tout cas un
Ben, bon,
grand
bref.
marché connu d'Ariège. Et je l'avais rencontrée. On est devenus
Vous avez
amis.
sympathisé?
Voilà, et je suivais du coup ce qu'elle faisait, et je voyais qu'elle faisait en ce moment pas mal de choses liées aux animaux et à la nature. Et moi, mon
D'accord.
album est aussi beaucoup lié à la nature, parce qu'à cette époque-là, voilà, j'étais sensible à ça. Et du coup, je l'ai recontactée pour lui demander de faire la pochette. À ce moment-là, on s'est revus, on est devenus très amis, on a fait un petit voyage ensemble.
D'accord.
Voilà, pour faire les marchés. Et elle vend ses illustrations
Oui, j'imagine.
sur les marchés, tout en elle joue son instrument. Je sais plus le nom. C'est un instrument traditionnel. Elle est originaire des Canaries.
D'accord.
Et en fait, elle a une voix
Parce qu'elle
magnifique.
chante aussi.
Voilà. Et du coup, à la fois elle jouait, elle chantait et elle vendait ses illustrations
Ah, mais
sur
c'est
les
une
marchés.
artiste complète, enfin, qui
Oui.
touche à beaucoup d'art.
Oui, très grande artiste,
Ah.
très 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 bonne chanteuse. Elle m'a donné quelques cours de chant à l'époque. Voilà, elle a une voix magnifique.
Et c'est quelle tessiture?
Grave, assez grave.
D'accord.
Oui.
Et vous?
Moi, médium plutôt. Voilà. Je prends des cours de chant en ce moment, mais
Avec
si,
qui?
avec Julien Cassedino. Pareil,
D'accord.
j'espère que j'écorche pas trop son nom, je suis pas très douée avec ça, mais un chanteur qui donne des cours de qui donne des cours et qui est chanteur plutôt dans un groupe de rock, plutôt style rock, voilà.
D'accord. C'est-à-dire que éventuellement vous envisageriez de jouer en même temps que de chanter, pardon, que de jouer de la harpe. C'est ça, le challenge, d'accord.
Je commence à le faire
Waouh.
un petit peu, mais
D'accord.
juste un petit peu, oui.
Et dans ces cas-là, vous j'imagine que vous écririez les textes de vos chansons aussi.
Pour l'instant, j'ai fait que des reprises.
De qui, par exemple?
Bah, par exemple, une de mes chansons préférées, c'est Scarborough Fair de Simon & Garfunkel.
D'accord.
Sinon, je chante des chansons plutôt de folk. Voilà. Et en cours de chant, c'est plus des chansons de pop américaine.
Oui, puisque c'est un monsieur qui aime le rock, c'est ça?
Voilà, c'est ça.
D'accord.
Mais du coup, ça me va bien. Ça me fait chanter des choses que j'aurais pas chantées de moi-même.
Naturellement, vous voulez
Voilà.
dire?
Oui. Du coup,
Donc comme
c'est
ça,
un.
vous découvrez, au fil comme ça des mois,
Oui.
des univers différents.
Oui, tout à
D'accord.
fait,
Pour vous
oui.
enrichir le plus possible. Et
Oui, tout à fait.
justement, quand vous chantez, bon, avec quelqu'un qui aime le rock et plutôt dans une consonance rock, dirons-nous. Si vous, après, vous voulez faire une composition, comment ça se passe au niveau de la harpe ou du piano?
Au chant.
Oui, je parle pour la composition, pour vous accompagner.
Bah, c'est comme
Musicalement parlant.
avec la harpe, on peut faire un peu la même chose qu'avec le piano. On peut
Oui.
s'accompagner en faisant des rythmiques, d'accords ou des arpèges ou d'autres choses, même carrément une autre mélodie. Pour l'instant, moi, comme je suis en train d'apprendre, je fais des accompagnements assez simples avec des arpèges. Pas trop compliqué, mais on peut s'accompagner comme on veut, en fait.
D'accord.
Voilà.
Et je voulais savoir, parce que là, il y a des. Bon, peut-être vous allez trouver ma question bébête, mais tant pis. Tout à l'heure, je vais parler du bois. Mais les cordes là qui ont différentes couleurs, c'est par rapport à des notes ou c'est simplement une histoire esthétique? C'est par rapport aux
C'est
notes.
des repères de notes.
D'accord.
Voilà, en fait, il y a des cordes rouges, c'est
Oui.
les do,
Oui.
et les cordes noires, c'est les fa.
D'accord.
Comme ça, on a les repères de chaque octave, tu vois.
Et les celles qui sont plus jaunes, enfin crème, je sais pas.
Alors, c'est ça, on a en fait sur celle-ci, il y a les basses qui sont en métal filé.
D'accord.
Et à partir c'est quoi? À partir du là, c'est le boyau, en fait. Le boyau
D'accord.
dont j'ai parlé tout à l'heure.
Oui, oui. Et ça, j'imagine qu'aussi au niveau déjà du toucher, mais aussi au niveau du sonorité, de la sonorité, selon le matériau, c'est différent.
C'est
aussi.
Différent, oui, c'est... Oui. Oui. Le boyau, comme j'ai, ça va avoir un son plus chaud, plus classique, en fait. Mmh. Ma harpe précédente en nylon, ça se rapprochait plus de la sonorité celtique, quoi.
Oui, d'accord.
Un peu plus brillante, quoi. Mmh. Voilà.
Mmh. Et vous, qu'est-ce que vous préférez au niveau du ressenti et du toucher, parce que bon, le toucher, c'est...
J'aime les deux.
C'est-à-dire que ça apporte des choses différentes, c'est j'imagine. Ça vous vraiment... permet d'aller dans des registres différents et de peaufiner au plus près.
C'est ça, oui. C'est vraiment des registres différents, donc j'aime les deux. Mmh. J'aime les deux, simplement maintenant j'ai acheté celle-ci, donc je vais travailler plus ce son rond et plus classique. Quoi. Mm. Ça...
Et vous prenez combien d'heures de cours par semaine là,
c'est une heure toutes les deux semaines.
D'accord.
Voilà. Mm-hmm.
C'est au conservatoire? Non,
non, c'est à domicile.
C'est à domicile, oui, pardon, excusez-moi. Mm-hmm. Oui, elle a été au conservatoire, mais elle n'y est plus, c'est ça?
Oui, c'est ça, oui.
Oui, oui, d'accord.
Et elle donne des cours, elle donne aussi des cours Marie Conan dans des écoles.
Mm. Et est-ce qu'elle joue elle-même dans des concerts ou pas?
Oui, je l'ai vue jouer. En ce moment, elle ne m'a pas donné de date de concert. Je sais qu'elle fait plusieurs projets dans la pédagogie pour les enfants. Mm-hmm. Mais c'est vrai qu'en ce moment, je ne sais pas exactement où est-ce qu'elle en est par rapport à ça.
Et des cours de chant, vous en prenez combien de...
Toutes les semaines, à peu près. On essaye, ouais, une heure par semaine.
Une heure par semaine?
Oui.
D'accord.
Oui, oui. Okay. Voilà.
Et comment dire, le fait que vous appreniez, puisque c'est ça, enfin, d'une certaine manière, à chanter, enfin, ou que vous perfectionnez en chant, justement, quelle influence ça sur votre composition, sur vos compositions? Est-ce que vous arrivez à percevoir des choses différentes, le fait que vous travaillez la voix aussi et pas que l'instrument?
Non, parce que j'ai pas encore tenté de composer des chansons.
D'accord.
Que ce soit l'anglais ou le français, c'est les paroles, c'est pas évident. Moi, c'est vrai que j'ai pas du tout en ce moment, pour l'instant, j'ai pas du tout d'inspiration pour ça, pour écrire vraiment des mots. Peut-être que ça viendra, peut-être pas.
Ah, bien sûr, il y a pas. Ah, ouais.
C'est vrai que j'ai pas.
Au fil du temps.
J'ai pas pensé à composer pour le chant en ce moment. C'est que des reprises, quoi. Mm-hmm.
Voilà. Et parmi les reprises, tout à l'heure, vous avez dit Simon & Garfunkel. Et puis, qu'est-ce que vous avez d'autre dans votre répertoire?
Qu'est-ce que j'ai d'autre? Alors, j'en ai une de Brel.
Ah.
Jacques Brel, qui s'appelle Sur la place, qui n'est pas parmi les plus connus.
Oui, effectivement. Oui.
Mais qui me plaît beaucoup. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai Lady Divine de Alena Dian. Mm-hmm. Ça, c'est de la folk américaine. Mm-hmm. J'ai Ala Una Yonasi. Ça, c'est une chanson, je crois, traditionnelle. Espagnol, ou en tout cas c'est un type d'espagnol, mais j'en sais pas plus. Et j'ai Ira Mia, pareil, c'est une chanson espagnole. Et qu'est-ce que j'ai d'autre? Si, j'en ai une de Lassa de Sela, Love Came Here. Ça, c'est pareil, c'est américain.
D'accord.
C'est plus une chanson de blues. Voilà, c'est un petit mélange de ce que j'aime.
D'accord.
Et de ce que je me sens de commencer
d'interpréter.
À... Ouais, voilà. Parce que c'est assez intimidant, la voix c'est pas évident. C'est pas...
Ben, c'est peut-être encore plus personnel, si on peut dire, plus intime. Enfin, oui, malgré
oui, tout à fait.
Parce que la voix veut dire beaucoup de choses, enfin, la sonorité d'une voix... Beaucoup de choses. Et quand tout à l'heure vous parliez des inspirations pour les compositions, je reviens à l'histoire du chat là, qui vraiment est trop beau ce matou.
Merci.
Il est tout roux, il a des yeux verts et puis là, waouh. Je vais montrer à Cléa là, qui fait la curieuse. Très beau. Vous pourrez féliciter le.
Oui, Maria.
Ah oui, vraiment, il est très mignon. Oui, vous disiez que vous aviez été beaucoup influencée par la nature, c'est ce que vous avez dit. Quand vous êtes influencé par la nature, c'est-à-dire c'est l'endroit où vous vivez ou alors c'est lié à des moments de votre vie, enfin, ou est-ce que vous avez des paysages particuliers qui vous influencent ou...
Non, mais plus des moments saisons. De ma vie. Quoi. Mmh. Là, la saison, c'est plutôt automnale sur cet album. Mais...
C'est pour ça que le chat est tout roux.
Oui, ouais,
comme les feuilles mortes.
Les couleurs, oui, voilà, c'est ça. Mais c'était pas par rapport à l'endroit où je vivais, puisque je vivais en ville et j'ai toujours vécu en ville.
Oui, mais il y a des. Quand le vent souffle, mettons à Toulouse, malgré tout, même en ville, on peut. Enfin, ça peut induire des choses.
Oui. Là, c'était plus par rapport à un moment de ma vie.
D'accord.
Voilà, un moment charnière où on change complètement de vie. Et,
de rythme. De...
Voilà. Et du coup, les choses ne sont pas forcément faciles. Et le rapprochement avec la nature, les animaux, m'apaisait, on va dire.
D'accord, oui. Voilà. Et vous aimez beaucoup les chats? Parce que c'est un chat qui orne votre pochette.
Chat sauvage, je ne sais pas, le titre de ce morceau m'est venu spontanément. J'ai composé ce morceau suite à justement une masterclass de jazz avec Parc Stickney, la personne qui jouait sur deux harpes différentes.
D'accord.
Dont j'ai parlé tout à l'heure. Et du coup, chat sauvage, ça m'est venu spontanément, je ne sais pas pourquoi. Ce morceau me fait penser vraiment à un chat indomptable,
bondissant.
Et le côté indomptable, en fait, aussi, qu'on peut avoir en soi, quoi. J'avais un peu du mal à... J'étais assez agitée à ce moment-là, et du coup, chat sauvage représentait aussi un peu...
La liberté aussi.
Aussi, voilà.
La liberté de se mouvoir, d'agir, de penser.
C'est... Ouais.
Oui, c'est vrai que les chats sont indépendants. Et en plus, un chat sauvage, j'imagine que c'est doublement indépendant.
Très indépendant, oui.
D'accord. Et... Est-ce là le donc Chat Sauvage, ce CD, est-ce votre unique CD ou est-ce que vous en avez d'autres?
J'en ai un premier.
Ça, oui, c'est bien ce qui me semblait. Oui,
oui, voilà, j'en ai sorti un, le premier en 2018.
Toujours autoproduit.
Toujours autoproduit. Et le premier, c'était harpe et piano. En fait, j'ai joué les deux, composé l'ensemble. Et du coup, j'ai utilisé mes deux instruments. Voilà.
D'accord.
Et cet album s'appelle Prélude to Océan. Et du coup, là, j'avais plutôt choisi des titres anglais. Celui-ci, c'est en français. Voilà.
D'accord. Voilà. Et que voulais-je dire? Oui, puisque c'est autoproduit. Après, vous enregistrez dans un studio à Toulouse ou...
Non, j'ai un ami ingénieur du son à Fontainebleau.
Enfin,
dans la région près de Fontainebleau,
oui.
Que j'avais rencontré. J'ai vécu un an à Paris il y a un moment, mais du coup, j'avais gardé ce contact-là. Et c'est lui qui a enregistré les deux albums.
D'accord. Voilà. Et donc, comment dire, pour quelqu'un qui voudrait les acquérir, comment fait-on?
Acquérir, il y a la plateforme Bandcamp. C'est une plateforme qui sert justement aux artistes indépendants à vendre leur musique. C'est très bien fait. Et du coup, l'album, il est en écoute libre et en vente, soit en version digitale, soit en version matérielle.
D'accord.
Si on le commande en matériel, c'est moi qui envoie.
Oui.
Voilà.
Donc, il y a comme ça ce côté proche, enfin relationnel avec l'artiste.
Exactement, oui. Oui, on peut me contacter. Donc voilà, c'est Élise Esther sur Bandcamp, ça s'écrit Bandcamp, c'est une plateforme américaine il me semble, et c'est très bien fait, c'est vraiment pour l'indépendance des artistes, voilà.
Et ça, vous y tenez à cette indépendance, ou c'est un non-choix ou...
J'y ai tenu longtemps, j'ai longtemps voulu rester...
indépendante, c'est qu'à le dire.
Puis loin, un peu loin du système... musical,
mercantile.
Voilà. Mais maintenant,
des grosses machines, quoi. Parce que enfin, après, il y a quelques encore maisons qui sont à taille plus humaine. Mais
oui, c'est ça. Oui. Donc maintenant, j'en reviens un peu. Je reviens plus dans une volonté de faire.
Avec des petites maisons d'édition, puisqu'on dit édition
oui,
aussi
ça,
pour
voilà.
la musique.
Je pense que le troisième album, j'essaierai de le faire sur un label ou. De faire financer une partie aussi, parce que j'ai tout financé moi-même de celui-ci. Et,
ah oui, d'accord. Oui.
Et j'ai eu du mal, quoi. Bon, ça a été un gros projet, quoi.
Je vois, donc, oui, effectivement, oui.
C'est vrai que maintenant, j'aimerais plus... puis même pour après le diffuser, je l'ai diffusé un petit peu, mais j'aurais pu aller plus loin. Et du coup, avec le troisième, je voudrais que ça soit plus le circuit.
D'accord. Vous l'avez... Est-ce que, bon, hormis par votre intermédiaire, vous en déposez dans... Enfin, des disquaires, il n'y en a plus beaucoup, ou dans des librairies, non?
Non, c'est surtout sur Bandcamp.
D'accord.
Et je me fais ma promotion avec les réseaux sociaux, Facebook et Instagram, des vidéos que je poste régulièrement, de mes concerts ou de mes actualités.
D'accord. Il y a peut-être Clélia qui veut demander quelque chose.
Non, je disais, je pense qu'on va l'ajouter à la playlist de Canal Sud et qu'on...
Oui.
Pour les auditeurs auditrices, il serait à l'antenne, à Canal.
Avec plaisir, oui.
D'accord. Et quand vous parlez du troisième, vous avez, comment dire, déjà des idées, enfin...
J'ai plusieurs idées.
Ouais.
L'une des idées, ça serait de faire un album d'improvisation, justement.
D'accord.
D'utiliser ce que je fais en improvisation ouais. pour...
Tout faire... ce que vous avez appris, dont vous voulez le mettre en
voilà.
pratique.
Voilà, parce que je garde quand même des écrits avec
des
thèmes.
Notes, des petits... Oui.
Voilà, donc peut-être faire un album de harpe solo improvisée.
Mmh.
Et j'ai aussi projet de, avec mon copain violoniste, on monte un duo, donc on a pour projet de faire des compositions ensemble,
ouais.
donc harpe, violon.
Violon.
Moi, pour mon projet solo, j'aimerais le développer et peut-être former un trio, vraiment,
D'accord.
pour la scène. Et du coup, là, le troisième album composé pour un... Un trio, quoi.
Et, ce serait, et le troisième instrument, ce serait quoi ?
Percussion.
D'accord.
Et après, mais c'est pas sûr, quoi. Mmh. Je n'ai pas encore trouvé les personnes...
Avec qui vous pourriez
ouais.
mener ce projet ?
Oui, voilà.
D'accord. Non, mais vous êtes toujours dans une perspective d'ouverture, d'aller vers d'autres choses, de faire se croiser des
oui.
instruments différents,
oui, oui, bien
des
sûr.
Registres différents, des, vraiment
oui.
élargir la palette
oui, oui, c'est ça,
le
ça
plus
fait,
possible.
Ça fait évoluer. Oui, moi j'aime beaucoup quand les albums ne se ressemblent pas les uns les autres,
mm-hmm.
qu'il y a vraiment une ambiance complètement différente ou un ensemble d'instruments complètement différents.
Mm-hmm.
Oui.
Et là, comme c'est la période, bon, de avant les fêtes, enfin, c'est comme ça, dans le calendrier, oui, des fois, il y a des choses originales qui se passent. Est-ce que vous avez eu des, comment dire, des opportunités de pouvoir jouer auprès d'enfants ou dans des écoles ou...
Là, pour Noël, non.
D'accord.
Non, non. C'est vrai que le Covid a beaucoup ralenti
bah
certaines
oui.
choses.
Oui, comme ça dure depuis un certain temps, on va dire. Donc,
voilà, donc là, ça reprend doucement. Donc, c'est vrai que ben, je ne peux pas tout faire en même
oui,
temps.
Oui, non, bien sûr. Non, non, mais je vous demande ça comme ça, parce que...
Et pour l'instant, je développe plus voilà, mon duo avec mon copain. Ça me demande pas mal de
oui,
travail.
Ben oui, j'imagine, oui, d'énergie. De...
Parce que ça part plus dans le jazz. Et du coup, moi, j'ai quelques bases en jazz grâce au piano.
Mais il faut que vous perfectionnez, c'est ça que
c'est
vous voulez
ça.
Dire.
J'ai beaucoup de travail pour ça. Et c'est très intéressant, du coup. Ça me motive.
Et quand
beaucoup.
Vous choisissez de jouer comme ça dans la rue, les jours où il fait beau, parce
oui.
qu'il vaut mieux qu'il fasse beau, c'est pour aussi vous faire connaître, j'imagine, pour pouvoir jouer aussi, pour pouvoir peut-être attirer des personnes qui ne connaissent pas spécialement cet instrument ou qui n'osent pas non plus aller à
Tout
un concert. Enfin...
Ouais, ouais. Il y a plein de raisons pour lesquelles j'ai joué, je joue beaucoup dans la rue.
Mm-hmm.
Et c'est vrai que ça touche un public très large.
Oui, les gens qui passent par le plus grand des hasards, on peut dire ça
oui,
comme ça.
Oui, voilà. Public très large. Et moi, ça me permet de tester des morceaux.
C'est, de nouer des contacts.
Voilà.
Peut-être.
Et de garder une routine, en fait, de pouvoir
jouer
en public, de garder un contact avec le public.
Oui, parce que là, en plus, vous êtes dehors, donc ce n'est pas l'endroit le plus facile non plus.
Non, non,
ni
non.
le plus confortable.
Oui, c'est pas le plus confortable.
Il y a du bruit autour, plus ou moins. Enfin.
C'est ça. Il faut rester concentré. Mais ça, j'y arrive très bien. J'ai vraiment l'habitude. Et du coup, j'aime beaucoup ouais, continuer.
D'accord.
Voilà.
Et
oui.
moi, j'avais une question peut-être sur Bandcamp. Comment est-ce qu'on peut te retrouver, que ce soit toi sur tes productions solo ou sur le duo que tu es en train de monter avec ton copain ?
Alors, sur Bandcamp, je peux vous donner l'adresse exacte internet. Enfin, mon nom d'artiste, c'est Élise Esther. Donc, Esther, c'est le prénom, c'est mon deuxième prénom. Et donc sur Bandcamp, simplement, il faut taper Élise Esther et vous tomberez sur ma page artiste.
D'accord.
Et j'ai aussi une page Facebook qui s'appelle Élise Esther Harp, donc tout attaché.
Mm-hmm.
Et une chaîne YouTube, voilà, Élise Esther.
Donc là où on vous voit.
Voilà,
D'accord.
il y a quelques vidéos, où il y a les albums aussi en ligne.
D'accord. Merci après avoir écouté un extrait à la harpe par Élise Esther que nous venons de recevoir. Nous accueillons deux artistes, à savoir une portraitiste, Céline Gélis, et Bud, vous faites plutôt des fresques, du street art?
Oui, c'est ça, oui, c'est un peu mon style, oui.
D'accord. Et donc, si vous êtes là, c'est pour parler du marché de Noël qui a débuté le 6 décembre et qui est à Compass Caffarelli dans la zone, enfin dans le hall, c'est le hall de...
C'est ça, dans la galerie marchande des Compass Caffarelli. Voilà. Donc, c'est du 6 au 24 décembre.
D'accord. De 10h, j'imagine, à 18h, chose comme ça.
Oui, de 10h à 19h, exactement.
19h, d'accord, vous allez jusque-là, ok.
Voilà, on est 16 artistes.
Uh-huh. Et vous pouvez nous dire comment c'est né? Qui c'est qui en a eu l'initiative au départ?
Alors, à la base, c'est à l'initiative des Arts en Balade,
ouais.
De Toulouse.
Ouais. Donc, qui viennent régulièrement ici pour en parler, notamment Véronique Bril, entre autres.
Tout à fait, c'est bien Véronique, on parle bien de la même.
Oui.
Et voilà, et également à l'initiative de la galerie marchande qui voulait un peu d'activité
artistique
en ces fêtes de fin d'année.
D'accord.
Et voilà, et sous l'impulsion aussi d'un magasin de bricolage.
Mais il ne faut pas...
Non, voilà, il ne faut pas en parler.
On dit juste le nom du monsieur, si vous voulez, puisqu'apparemment, il vous a beaucoup aidé à le mettre en place.
Exactement, il s'agit de Jean-Luc Marot.
Voilà, il se reconnaîtra. Ouais. Et...
Exactement, et qui est au petit soin pour nous, vraiment. Dès qu'on a la moindre requête, il est là pour nous aider. Donc, ouais, c'est vraiment très agréable de l'avoir avec nous aussi.
La galerie, c'est en rentrant.
Ça se trouve sur les deux niveaux de la galerie.
Ah, sur les deux niveaux,
oui.
D'accord. Oui.
C'est au niveau, au rez-de-chaussée.
Je pensais au rez-de-chaussée.
Au rez-de-chaussée, qui donne accès sur la station de métro Compass Caffarelli, directement. Mm-hmm. Et également au sous-sol et au rez-de-chaussée.
D'accord.
Sur les deux niveaux, oui.
D'accord. Ok. Donc, est-ce que vous aviez participé les deux aux Arts en Balade?
Non, c'est la première fois que je participe.
Que vous faites partie de ce collectif, enfin, si
oui, oui, dire. Absolument, oui.
Il a un nom cette fois-ci, le collectif, ou non?
Non,
fait, c'est tous les artistes qui sont devenus membres en fait, des Arts en Balade maintenant. Mmh. Moi, ça fait un petit moment maintenant que je fais partie des Arts en Balade.
Ah, d'accord.
Et j'aide notamment pour. Ce qui est un petit peu la communication sur les réseaux sociaux, ce genre de choses, je suis bénévole et j'essaie de les aider un petit peu. Et c'est vrai que ce projet de marché, ça a été un peu une surprise pour nous tous, parce que c'était pas forcément prévu non plus depuis longtemps. Mm-hmm. Et ça a été une occasion de nous rencontrer, de faire connaître un petit peu l'association à de nouveaux artistes. Mm-hmm. Et voilà, ça fait de belles rencontres tout ça.
Mais vous exposiez, vous, dans le cadre des Arts en Balade?
Alors, moi, je n'étais pas artiste dans les Arts en Balade. Moi, j'étais juste bénévole,
pour les aider,
aider les autres artistes aussi.
Oui, puisque ça devient, important au fil des années, quoi.
Oui, c'est ça. Ça devient de plus en plus important.
Tous les ans,
exactement.
Plus d'artistes, encore plus de lieux, et notamment en septembre,
ouais,
là, c'était cette année. Il y en avait en dehors de Toulouse aussi.
Exactement, oui.
On a parlé de Toulouse.
On essaie de s'élargir un petit peu, ouais, en dehors du centre de Toulouse. Et du coup, là, on est déjà en train de préparer l'édition 2022 des ouvertures d'ateliers d'artistes.
D'accord.
Voilà, donc ça fait une jolie balade de fin d'année pour les gens qui sont intéressés par l'art, et notamment pour ceux qui veulent voir un petit peu les coulisses des œuvres, en fait. Hein.
Bah oui, comment ça se fabrique,
exactement,
ça se crée.
Exactement.
Vous allez rejoindre les Arts en Balade?
Pour moi, c'est une première. Mm-hmm. Et voilà, ça se passe très bien. C'est en rencontrant Véronique, en fait, sur un marché,
L'infatigable Véronique.
Que voilà, j'ai pu faire partie de cet événement.
C'était où, si ce n'est pas indiscret?
C'était rue Bayard. C'était pour le festival Bayard Street.
Ah, d'accord.
Voilà, donc c'était au courant du mois d'octobre.
Après qu'ils aient refait la rue, c'est ça? L'inauguration de la rue, c'est
oui,
ça?
Oui, c'est ça. Il y a eu... c'est l'événement du Bayard Street. Bayard Street a été créé pour développer un peu le...
Faire reconnaître le quartier.
Voilà, tout à fait. Sous l'initiative des commerçants de cette rue-là.
D'accord.
Et donc voilà, il y avait différentes animations, donc des stands d'artistes, des graffeurs également.
Mais vous aviez exposé dans des commerces ou dans un lieu bien précis?
Moi j'ai exposé dans la rue, j'étais un exposant.
D'accord.
Et voilà, c'était une bonne expérience, ça s'était assez bien passé. Mmh. Et donc, c'est comme ça que j'ai rencontré Véronique. Et donc,
qui vous a fait part de ses projets.
C'est ça, tout à fait.
Qui vous a entraîné dans son tourbillon, on va dire ça.
C'est ça, tout à fait.
C'est quand même très dynamique.
Et j'en suis enchantée.
D'accord. Donc là, vous êtes 16, vous m'avez dit, c'est ça?
Oui, c'est ça.
Donc avec différentes approches plastiques. Bon, vous êtes portraitiste, vous êtes plutôt des fresques et du street art. Mais il y a aussi des sculpteurs, mm-hmm. Des peintres, des plasticiens. Il y a aussi des céramistes peut-être. Il y a de la photo aussi.
Il y a de la photo aussi.
Des arts visuels. Enfin oui, c'est le photo,
oui, c'est ça.
Ça rejoint les arts visuels.
Céramiste.
Non, céramiste,
il n'y a pas cette fois-ci.
Céramiste, pas vraiment.
Non, parce que dans les arts en balade, il y avait, donc c'est pour ça.
Oui.
Ouais, dans les arts en balade, il y a vraiment de tout. Mais ouais, pour le marché de Noël, il y a pas de céramiste cette année, peut-être l'année prochaine.
Il y a de la sculpture.
Il y a de la sculpture. Sébastien Langlois, notamment, qui a fait pas mal de sculptures sur Toulouse et un peu dans toute la France.
Et qui a un lieu au centre-ville, pas très loin des Carmes.
Il a une galerie, ouais, c'est ça, tout à fait. Donc on est bien content de l'avoir aussi avec nous. Parce que ouais, c'est une personne très 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 gentille, très agréable et qui est assez connue sur Toulouse.
Oui.
Donc
lui, il a une galerie à lui. Enfin,
voilà. Voilà, donc c'est assez appréciable aussi de l'avoir avec nous. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on a des techniques tous différentes.
Ouais. Et il y a de l'aquarelle aussi.
Non, il y a. Non. Je pense pas qu'il y ait.
D'aquarelliste.
Non, il y a d'aquarelliste. Pas d'aquarelliste.
Alors là, on parlait de sculpteur. Il y a également Jacqueline Delpy, qui crée des sculptures à partir de plastique recyclé.
Recyclé, ouais.
Très coloré, très joli.
Donc elle le fait, comment dire, à base de récupération. Donc enfin, elle participe à la sauvegarde entre guillemets de la planète et elle crée.
C'est
donc
ça, tout à fait.
Un deux en un, si on peut dire.
Oui. Et ensuite, voilà, il y a toute une variété de créations sur les différents stands.
Et vous êtes, comment dire, est-ce qu'il y avait un nombre, il ne fallait pas aller au-delà d'un certain nombre ou pas en fonction de la place, de l'espace?
C'était plutôt en fonction de l'espace et qu'on puisse se relayer un petit peu aussi pour pouvoir aller manger, par exemple.
Oui, oui.
Il n'y avait pas forcément de nombre limite de participants. Du moins, je crois pas.
Non.
Parce que vous avez un espace de combien chacun, à peu près?
Alors, il y a des stands très différents. Celui du haut, par exemple, est assez grand.
Oui.
Vous avez combien, 60 mètres carrés?
Non, je dirais pas autant. 40 mètres carrés,
40
peut-être.
Mètres carrés.
Mmh. D'accord.
Voilà, ensuite, il y a, pour être exact, il y a 4 stands.
Oui.
Donc voilà, au rez-de-chaussée, donc au niveau de l'esplanade, donc il y a le plus gros stand qui fait 40 mètres carrés.
Vous êtes là
à peu près? Oui, je me trouve ici. On est 5 artistes à cet endroit-là.
Qui c'est qui vous accompagne?
Alors, les personnes qui m'accompagnent...
Donc vous êtes bonne, c'est ça?
Oui, c'est
ça. Vous avez de grands, des fresques, c'est des...
Alors, c'est sur toile que je travaille. Voilà, bon, je peux faire des fresques également à côté, mais pour pouvoir l'amener avec moi... voilà, je travaille sur toile, de façon générale. Et donc, avec moi, sur le stand, se trouvent d'autres artistes. Je parlais tout à l'heure de Jacqueline Delpy. Donc, elle propose ses...
sculptures à base de recyclage, c'est ça?
Voilà, c'est ça, tout à fait. Ensuite, il y a Monsieur Un Point, c'est tout. Donc, c'est également un graffeur. Enfin, à la base, il a une... Il faisait du graffiti. Et donc, il travaille maintenant sur toile et il représente Super Mario, un célèbre jeu vidéo des années 80 qui pique ses 10. Et à côté de ça, il travaille sur des petites toiles, des prénoms, un style graffiti. Il vend également des t-shirts.
D'accord.
Donc, c'est accessible à tous les portefeuilles. Voilà. Ensuite, il y a Julien Jam. Qui lui travaille à la plume, voilà, il travaille des motifs.
Il fait de la calligraphie ou non, c'est du dessin à la plume.
C'est du dessin à la plume, donc il retravaille des paysages d'inspiration de ses voyages en Laponie.
D'accord.
Là, ce sont des dessins très doux.
Puis léger, parce que la plume, c'est délicat,
c'est ça.
Ça donne un trait fin.
Oui, assez léger, et dans la répétition du crayonné, il crée ses paysages. Ensuite, il y a Jeanne Métra également sur notre stand, qui elle travaille à l'acrylique et au Posca. Donc elle travaille des choses assez colorées, voilà, c'est des paysages assez oniriques. Ensuite, il y a également Océane Duvillier. Donc elle travaille, elle a différents... elle s'inspire de la culture aborigène.
Ouais.
Donc du pointillisme aborigène. Mm-hmm. Donc voilà, c'est très coloré et chaleureux. Mm-hmm. Ça amène au voyage.
C'est parce qu'elle a fait des voyages là-bas ou c'est simplement son goût et son...
Alors, c'est par rapport à ses goûts, il me semble. Mm-hmm. Donc voilà, ensuite elle fait des ateliers également pour les enfants. Voilà, elle a un univers un peu enfantin, en dehors de cette inspiration aborigène.
Vous avez fait le tour, là ?
Oui, ouais.
Bon, ben alors, je vais demander à Céline. Alors, vous êtes en sous-sol, c'est ça ?
Moi, je suis en bas, ouais.
Et là, vous êtes combien ?
Alors, on est 7 en bas. On est 7 en bas. On est répartis sur 3 stands. Donc, nous, on n'a pas un grand stand. On a 3 D'accord. petits stands, mais qui sont sur toute la longueur, en fait, de la galerie. Et du coup, on a un stand avec Thierry Huard, qui fait des peintures sur bois, des peintures d'animaux sur bois. On a mon stand avec donc moi qui fais les portraits, Sébastien Langlois qui fait ses sculptures, dont on a parlé tout à l'heure.
Et, des sculptures sur terre, hein, qu'il fait
Il fait des bronzes.
Des bronzes aussi, oui.
Ouais, tout à fait. Et il a quelques aquarelles aussi, qu'il vend là-bas. Et je suis aussi avec Véronique Bril, la fameuse, donc qui vend ses photos et qui a beaucoup de succès parce que ses photos transmettent beaucoup d'émotions.
Elle fait une série sur les saisons, là, c'est ça ?
Exactement, c'est sa nouvelle série sur les saisons. Elle a également
avec
le port
des petits
de...
formats.
C'est ça, tout à fait. Et qui place bien, d'ailleurs. Donc c'est très très bien pour elle, on est vraiment très contents pour elle.
Et Elisabeth Lombard aussi ?
Elisabeth Lombard, alors, elle n'est pas encore arrivée, elle arrivera un petit peu plus tard.
Parce que je l'ai vue dans la liste des gens.
Mais tout à fait, ouais. Elle sera là soit la semaine prochaine, soit la dernière semaine, en fonction de ses disponibilités. On ne sait pas trop encore, mais elle sera là. Et on a aussi Virginie Gosselin-Février, Marika Perros et Jenny Aimé Dufraisse, qui font toutes les trois des peintures. Et qui sont sur le même stand toutes les trois devant le centre commercial, en fait, devant le...
Marika Perros, elle a exposé plusieurs fois ici dans la galerie de Canal dans le cadre des arts en balade. Et là, elle fait des petits formats aussi, je crois, non ?
Elle fait des
cartes comme des cartes postales,
oui,
avec des oiseaux fleurs.
C'est ça, c'est très joli. Il y a du noir et blanc, il y a pas mal de couleurs aussi. Et là, c'est sa fille Yana qui vient aussi l'aider sur le stand et qui a ramené quelques tableaux à elle aussi pour qu'on puisse voir ce qu'elle fait aussi en dehors du marché de Noël.
Donc, oui, parce qu'elle fait des fois des tableaux beaucoup plus grands.
Oui, oui. Bah, c'était la question qui se posait parce que ces tableaux sont assez grands.
Assez grands,
oui. Et on ne savait pas trop comment on pouvait les...
Les agencer, enfin, les présenter.
Exactement. Ouais. Et on a bien réussi.
Vous avez réussi, vous avez bien travaillé.
On s'est bien organisé.
Mais maintenant, nous allons faire davantage connaissance avec vous deux, puisque c'est vous deux qui vous y collez pour parler de ce marché de Noël. Donc, c'est jusqu'au 24, 10h, 19h. Sans interruption, quoi. Vous relayez.
C'est ça.
D'accord. Donc vous êtes portraitiste.
Oui, c'est ça.
Alors vous pourriez nous parler de votre formation et pourquoi le portrait ? Qu'est-ce qui vous intéresse dans le portrait ? Oh, quel matériau utilisez-vous ?
Toute une histoire derrière tout
ça. Oui, j'imagine.
Alors moi, en fait, ça fait pas si longtemps que ça que je fais du portrait. J'ai toujours été très créative, donc j'ai toujours gribouillé un petit peu.
Crayonné.
Exactement, des personnages de bande dessinée quand j'étais petite.
Vous venez d'une famille d'artistes ? Vous êtes allée dans une famille...
Je viens pas d'une famille d'artistes, mais on a tous un petit truc pour l'art,
pour
le dessin, pour la création en général. Et donc j'ai laissé un petit peu tomber tout ça pendant assez longtemps. Pour me concentrer sur ma vie d'adulte, entre guillemets, le travail, etc.
Vous faites quoi comme profession, si c'est pas, enfin, et alors, je suis pas indiscret.
Avant ça, j'étais câbleuse électronique dans le spatial.
D'accord. Ah oui, rien.
Donc rien à voir.
Rien à voir, effectivement.
Et je suis, à un moment donné, je suis tombée très malade, en fait. J'ai perdu quasiment la parole. Je pouvais plus, comme une conversation comme on a à l'heure actuelle, je pouvais plus en avoir.
D'accord.
J'étais en béquille, donc j'étais vraiment comme coincée dans mon corps, en fait. J'arrivais plus à m'exprimer, j'arrivais plus à sortir tout ce mal-être que j'avais.
Donc, ça a été par le dessin.
Exactement.
Ça a été votre thérapie.
Exactement, c'est d'accord. ça. En fait, j'ai commencé à dessiner des portraits parce que j'avais besoin de ressortir, en fait, tout ce qui était en trop, en fait, à l'intérieur de moi.
Qui était bloqué d'une certaine manière.
Exactement. Comme je ne pouvais plus le sortir en mots, j'avais besoin de le sortir d'une autre façon. Et c'est pour ça que j'accordais une importance toute particulière au regard de mes personnages, pour essayer de faire passer un petit peu tout ce que j'arrivais plus à faire passer en mots.
Oui, parce qu'un regard, ça dit beaucoup.
Exactement. Et c'est ce qui est très cher pour moi, en fait, dans mes portraits. C'est le regard, l'expression,
l'intensité,
tout ce que je peux faire passer en émotion, en fait, j'essaye de faire passer. Et pour faire ces portraits réalistes, du coup, je fais des portraits...
Photos.
C'est à partir de photos, c'est ça. On m'envoie la photo. C'est souvent sur commande, en fait. C'est des gens qui me commandent soit de la famille, des amis, ou alors des personnes qui viennent de décéder, malheureusement. Et pour moi, c'est là que mon travail prend tout son sens, parce que ça a été une thérapie pour moi.
Et j'essaye, oui, de redonner vie, d'une certaine manière,
exactement.
Ou de prolonger. Enfin, oui.
D'amener un petit peu d'âme, en fait, dans ce dessin, pour pouvoir aider les gens qui en ont besoin. Alors... À ma mesure, hein, je ne vais pas non plus leur enlever toute leur peine, mais peux au moins les aider un petit peu dans ce travail de deuil, c'est super important pour moi. Et du coup, je fais ça au crayon, au fusain, au pastel.
Pastel sec,
ouais, tout à fait. Et j'ai la chance de... Alors, j'ai ouvert justement mon entreprise de dessin, mon entreprise entre guillemets de dessin il y a un an. Et j'ai la chance d'avoir un public qui me suit et qui est de plus en plus présent pour me soutenir et pour regarder un petit peu comment j'évolue.
C'est des gens qui font des commandes régulièrement.
Ouais, c'est ça. Donc, notamment par les réseaux sociaux, ce qui marche assez bien. Mais là, pour le marché de Noël, c'est le premier marché de Noël que je fais.
Ouais.
Et je voulais voir un petit peu aussi ce que ça donnait.
De vous retrouver dehors. Comme ça face au public.
Exactement, de voir un petit peu le retour que je pouvais avoir des gens par rapport
toutes
à mon travail.
Toutes personnes confondues qui ne vous connaissent pas spécialement.
C'est ça, tout à fait. Vraiment un public qui ne sait pas qui je suis, qui ne sait pas d'où je viens, qui ne connaît pas mon histoire. Et du coup, je suis vraiment ravie parce que j'ai de très très bons retours. Et pour moi, c'est une super expérience d'avoir tenté ça, quoi. Donc, je regrette vraiment pas du tout. Et entre artistes, on a fait de très très belles rencontres aussi.
Vous faites sur quel support les portraits?
Alors, je fais sur du papier Bristol.
Ouais.
C'est le papier le plus fin que j'ai trouvé, pour pouvoir justement avoir un rendu le plus lisse possible de la peau quand je fais mes visages. Et moi, ce que j'adore travailler, c'est les expressions et les contrastes. Et vraiment, je m'éclate en fait, hein, sur le Bristol à pouvoir estomper, faire tous mes contrastes. Donc, c'est la formule qui marche le mieux pour moi pour l'instant. Voilà.
Et vous faites quel format?
Alors, je fais le plus petit que je propose, c'est du A4.
Ouais.
Ensuite, je fais du A3 et je finis sur du format raisin, qui est un petit peu plus grand que le A2. Mais c'est pour projet de faire de plus en plus grand.
De plus grand portrait.
C'est ça. Donc là, dès que le marché de Noël sera terminé, je vais enchaîner sur de nouvelles tentatives de dimensions, notamment, et peut-être de matériel aussi, je ne sais pas.
C'est-à-dire de matériel de support, vous voulez dire?
C'est-à-dire pas de support, mais...
Des techniques
De techniques différentes, peut-être rajouter un petit peu de stylo pour quelques traits un petit peu plus marqués, ce genre de choses. On me demande aussi pas mal de rajouter des touches de couleur de temps en temps, donc peut-être que je vais essayer de travailler sur ça aussi. Donc voilà, l'année 2022 s'annonce riche en tentatives.
Et l'encre, vous voulez tenter l'encre?
Alors l'encre, justement, j'ai commencé il n'y a pas très longtemps à faire un autre type de portrait, ce que j'appelle les line art. C'est des portraits beaucoup plus... minimaliste, on va dire. C'est vraiment là, pour le coup, je me concentre sur les traits extérieurs,
ouais.
Pour donner un aspect peut-être un petit peu plus moderne à ces portraits-là. Et je voulais aussi que ce soit plus abordable pour les gens.
Au niveau des acquisitions,
ouais, c'est ça, au D'accord. niveau des tarifs, par exemple. Et c'est vrai que ça parle un peu plus... disons que pour avoir un portrait chez soi... Cela marche un petit peu plus dans le sens où c'est plus moderne, en fait, tout simplement, et ça s'accorde plus avec les intérieurs des gens. Donc là, pour le coup, je travaille à l'encre. Je travaille au stylo avec des stylos Micron et avec des feutres. Et il m'arrive de temps en temps de rajouter un petit peu de plume. Donc voilà.
C'est toujours à partir de photos?
C'est toujours à partir de photos, toujours des portraits. Mais ça me permet aussi de changer un petit peu de technique.
Oui, je comprends.
Et bien. Du coup, je m'ennuie jamais. Ah. Du coup, comme j'ai tout le temps de nouvelles choses à faire et que je change un petit peu de technique, de manière de faire, je m'ennuie vraiment jamais. Ça, c'est génial.
Et parce que j'imagine que parmi les gens qui vous suivent, comme vous dites, bon, ouais. Il y a des gens avec qui vous avez lié peut-être des sympathies, enfin, ou même
complètement plus.
Puis d'autres peut-être qui vous, pour la première fois, vous font une commande. Et donc, vous, au niveau de la réalisation du portrait, qu'est-ce que ça induit comme différence à partir du moment où vous connaissez Jean ou au contraire c'est un ou une illustre inconnue?
Je fais pas forcément de différence parce que quand on me commande un portrait, c'est pas forcément la personne qui me le commande sur laquelle je me concentre. C'est vraiment la personne que je dessine et
la photo que vous avez.
Ouais, exactement. Oui. C'est vraiment ça qui me c'est vraiment ça qui m'importe. Et je fais pas vraiment de différence. Enfin, je ressens pas forcément de lien
d'accord,
en particulier
d'accord.
pour les gens que je connais ou pas. C'est,
donc vous
c'est
vous
la même implication.
Au regard, à ce que le visage raconte.
Exactement. C'est la même implication pour tous les portraits que je dessine.
D'accord.
Et c'est la même chose que je veux rendre à chaque fois. C'est cette émotion dans le regard. J'essaye de mettre un peu d'âme dans ce portrait, quoi. Voilà.
D'accord. Quel regard avez-vous sur ce que fait Céline?
C'est vraiment super ce qu'elle fait.
Vous vous connaissiez avant?
Non, du tout.
D'accord.
Du tout. Et son travail est vraiment impressionnant. Étant donné qu'elle travaille le photoréalisme et... elle a dessiné différentes personnalités comme Jim Carrey ou Timothée Chalamet, enfin quelques personnalités, et on reconnaît vraiment, on a l'impression que c'est une photo. C'est vraiment saisissant.
Merci beaucoup.
Mais maintenant, nous allons parler de votre travail,
oui.
de ce qui vous inspire. Puisqu'au départ, vous m'aviez dit, là, puisque nous étions parlé au téléphone, vous avez fait une école d'art restaurer les...
C'est ça, tout à fait. Alors, j'ai fait...
Les monuments, enfin, les, oui, dans les églises aussi, entre autres, et c'est ça.
C'est ça, tout à fait. Donc, enfin, j'ai un parcours assez atypique. Je suis un enfant des années 80. Tout petit, déjà, je voulais dessiner. Je dessinais beaucoup et je me voyais artiste en étant grand.
D'accord.
Et j'étais inspiré par Salvador Dali,
par
son surréalisme.
Son côté excentrique un peu.
Absolument. Et comme je disais, je suis un enfant des années 80, et donc inspiré par toute la culture de cette époque-là, qui était assez riche au niveau visuel, que ce soit le cinéma, les pochettes de CD. Donc voilà, j'ai voulu m'orienter vers ça dès le début, mais les portes n'étaient pas forcément ouvertes.
Vous avez commencé au lycée, parce qu'il y a au lycée, il y a notamment des filières artistiques.
Oui, absolument. Donc je voulais m'orienter vers ça directement à la sortie du collège, et je me suis orienté plutôt vers le dessin d'architecture. Donc j'ai fait un bac dans le génie civil,
okay.
Et ensuite je me suis retourné vers un BTS communication visuelle, c'est-à-dire faire des logos, la mise en page et les sites internet.
Vous l'avez fait ici aux Arènes ?
Alors non, j'ai fait ça à Aurillac, au lycée Saint-Géraud. Et donc ensuite, une fois arrivé dans la vie active, j'ai travaillé dans le bâtiment. Voilà, une petite dizaine d'années.
Pour rénover des intérieurs, c'est ça des...
Non, j'étais pas à cette étape-là encore.
D'accord.
Donc, ensuite, j'ai fait une formation de peintre en décor à l'École européenne de la matière à Albi.
Albi ?
À Albi, oui,
d'accord.
Tout à fait, en 2017. Et c'est là que je suis revenu vers mes premiers amours, vers
le dessin,
le dessin, le côté artistique, tout à fait.
C'est ce qui vous a donné le là, on peut dire.
C'est ça, l'impulsion pour repartir dans
ce domaine.
Dans la création et dans ce domaine.
Dans ce qui vous était cher.
Tout à fait. Donc voilà, là je travaille plutôt... je travaille pas mal la couleur, je travaille à l'acrylique et à la bombe aérosol. J'aime bien le figuratif et j'y intègre des lettrages avec une petite touche street art.
Et vous faites des dans la enfin, vous en faites du street art au sens premier du terme.
Alors non, je ne fais pas de vandalisme.
Non, mais c'est pas sur le sens.
Mais sinon, il m'arrive de faire des fresques chez particuliers.
Sur commande donc.
Oui, c'est ça, sur commande.
Et quelles sont les dernières fresques qu'éventuellement vous ayez réalisées ?
Alors les dernières fresques que j'ai réalisées, alors c'était un travail que j'ai réalisé en mai, c'était au siège Groupama, de Balma, où j'avais fait la décoration de places de parking pour des véhicules électriques.
D'accord.
Voilà.
Mais c'est-à-dire, là, vous aviez un, comment dire, c'était quelque chose de très précis ou vous pouviez laisser voguer votre...
Alors, c'était quelque chose de très précis.
On vous a demandé des choses bien précises.
Et très cadré pour le coup. C'était quelque chose d'épuré, de nature, avec un minimum de couleurs. Donc voilà, je m'adapte en fonction de la commande. Ça dépend de la clientèle. Des fois, on me laisse...
Champ libre.
C'est ça, tout à fait.
Et là, dans le cadre du marché de Noël, vous proposez quoi ?
Là, dans le cadre du marché de Noël, je propose une dizaine de toiles, en fait, de différentes réalisations que j'ai faites.
Les toiles de base qu'utilisent les peintres.
Oui, toile coton, toile de lin. Voilà, les toiles classiques.
Mais c'est différent, le lin, au niveau de la trame. Donc au niveau du rendu, c'est différent.
Oui, tout à fait, et ça dépend ce que je veux réaliser. Mettons, sur une toile de lin, je vais laisser brut pour travailler comme une estampe japonaise.
D'accord. Et là, qu'est-ce que vous utilisez pour vous rapprocher de l'estampe ?
Je garde le côté brut du fond de la toile.
Oui, ça, je comprends. La trame, oui.
Et ensuite, donc, je m'inspire de la culture japonaise pour donner un sens à tout ça.
Oui, mais je veux dire, après, vous utilisez de l'acrylique là,
oui, je travaille à l'acrylique et au Posca.
D'accord. Et la culture japonaise vous intéresse ? Enfin, vous avez voyagé au Japon ou...
Non, pas du tout. En fait, à la base, c'était une commande. Et donc, j'ai travaillé sur ça. Et voilà.
Vous avez découvert que ça vous plaisait ?
Oui, j'ai retravaillé cet univers-là.
Et sur les toiles coton, que faites-vous ?
Alors, sur les toiles coton, j'ai différents styles. Il m'arrive de détourner une célèbre fresque de la Renaissance de Fra Angelico. C'est l'Annonciation de l'Archange Saint-Gabriel. Donc, sur la toile...
Donc, vous le détournez, c'est ça ?
Oui, c'est détourné. C'est détourné pour donner un... qui reflète le monde d'aujourd'hui.
Actuel.
Oui, c'est ça, tout à fait.
Donc vous inspirez d'une toile ancienne, enfin voilà, d'une certaine époque, on va dire ça, pour après l'adapter au monde contemporain et vous faire passer un message.
C'est ça, tout à fait.
Manière.
En fait, pour résumer, j'ai remplacé l'archange Saint-Gabriel qui vient annoncer la naissance de...
Ouais, de Jésus, oui.
Par Ronald McDonald qui amène un Happy Meal à la Vierge Marie.
Qui amène quoi ?
Un Happy Meal, c'est-à-dire le repas, McDonald's.
Oui, j'avais pas compris, excusez-moi. Oui, d'accord, oui. Ah oui, effectivement, oui.
Donc je joue sur la pop culture, sur le capitalisme, sur le monde d'aujourd'hui.
Et est-ce que vous souhaitez développer un côté, comment dirais-je, corrosif ?
Oui, toujours. Il y a toujours un côté un peu provocateur
critique.
Ou critique.
De la société dans laquelle nous vivons ?
Tout à fait. Donc voilà, je tourne à la dérision, en fait, le monde qui nous entoure.
Et vous utilisez des couleurs vives pour ce faire ?
Oui, absolument. Enfin, de façon générale, je travaille les couleurs vives. Là, par exemple, sur les estampes, c'était un peu plus doux. En fait,
oui,
les couleurs noires,
noires-blanches.
Mais voilà, je reprends les codes en fonction de ce que je travaille.
Et vous faites sur quel format ?
Alors, je travaille sur les formats sur des toiles de 50 par 60, par exemple, ou de 80 cm par 30 cm. Voilà, ensuite, sur des toiles plus petites, qui sont plus abordables. Là, j'ai travaillé sur quelques petites toiles, justement pour le marché de Noël.
C'est-à-dire petites, c'est quoi, 10 sur 10 ?
Non, de la taille d'une feuille A4, c'est-à-dire, de 25 sur 35, par exemple. Voilà, pour que ce soit...
Et après, que vous encadrez, que vous mettez sous verre, comment ça se passe ?
Non, ce sont des toiles
nature,
également. Donc voilà, je travaille différentes techniques en ce moment. J'ai essayé de travailler la résine époxy aussi.
La résine comment ?
Époxy.
C'est quoi ?
Donc c'est une surface tout à fait lisse. Et c'est comme un miroir. Enfin, ça donne un effet très plastique à mes créations.
Et les couleurs, comment se reflètent-elles, en fait, si je puis dire ?
Les couleurs sont sublimées, en fait, ça révèle encore
c'est
plus...
C'est le côté miroir, entre guillemets, qui les met en valeur, c'est ça ?
Oui, c'est ça, oui.
D'accord. Okay. Et au niveau de la difficulté ?
Et au niveau de la difficulté, voilà...
Travailler sur ce matériau ?
Non, ça se fait étape par étape, ça c'est seulement la finition, c'est en finition que je travaille à cette résine.
D'accord, ok. Même question, que pensez-vous de son travail, de son univers, voilà. Puisque là, vous avez l'occasion d'exposer en même temps.
Tout à fait. Ben, la première chose qui saute aux yeux quand on voit son stand, c'est la couleur.
C'est
très coloré, c'est très vivant. Et c'est très ludique aussi. Je ne sais pas si on peut dire ça, mais c'est très fun, en fait.
C'est le côté détournement qui donne ce
ouais,
côté.
Ouais, c'est ça, tout à fait. Et j'adore. Mais vraiment, la couleur, c'est le truc qui m'a sauté aux yeux. Ah, c'est ça, tout à fait.
D'accord. Ok. Je crois que l'heure tourne, malheureusement. Non, ça va enfin, donc, vous exposez jusqu'au 24, c'est ça ?
C'est ça, oui.
Jusqu'au 24, 19h ?
Je pense qu'on
vous a raté avant, quand même.
Pour profiter un peu des fêtes.
Des festivités, vous aussi. D'accord.
C'est ça, mais je pense qu'on arrêtera peut-être vers midi, quelque chose comme ça.
Et puisque là, vous y êtes depuis le 6, en gros.
Oui, c'est ça.
Quel est votre ressenti au niveau de la fréquentation, de ce que vous disent les gens, s'ils vous parlent, parce que c'est le fait aussi de faire ces marchés, c'est aussi pour rencontrer le public et que le public rencontre des artistes, c'est aussi
complètement,
ça.
Ouais. C'est pour sortir un peu les artistes de leurs ateliers.
Ouais, de leur boîte.
C'est ça, et qu'ils puissent rencontrer un petit peu. Moi, pour ma part, je suis vraiment très très contente de...
Vous avez un bon retour, vous avez des échanges intéressants.
J'ai beaucoup d'échanges, et en plus je dessine sur place, donc les gens voient directement comment je travaille.
C'est-à-dire que si quelqu'un arrive et vous dit « j'aimerais que vous fassiez mon portrait », vous pouvez le faire comme ça ?
Alors non, je ne fais pas les gens directement.
Ah oui, c'est par photo, excusez-moi,
Je pourrais, hein, mais sinon ils vont rester un petit moment devant moi.
Donc vous avez votre petit stock de photos.
C'est ça, ils m'envoient la photo et puis moi après, dès le lendemain, je commence à dessiner un petit peu. Donc c'est vrai que c'est assez sympa pour les gens de voir les artistes travailler. Je ne suis pas la seule à travailler d'ailleurs directement sur les stands.
Oui, comme ça ils voient quelle technique, comment vous
tout
faites,
à fait, ouais.
Procédez, tout ça. D'accord.
C'est ça, et donc moi j'ai eu beaucoup de retours super positifs et voilà, pour moi c'est une très belle expérience. Il n'y a pas énormément de fréquentation
pour
encore.
Les stands.
Ouais, mais on a sur les stands des gens qui ont l'habitude de faire les marchés de Noël.
Ah oui.
Et qui nous ont dit que normalement à partir de la semaine
prochaine,
ça allait être
crescendo,
tout à fait. Donc voilà, pour l'instant on se met un petit peu en place tous parce que c'est aussi une première, une première pour tous.
Vous retrouver dans cet endroit.
Ouais, c'est ça.
Parce que même les personnes qui, comme Véronique, font les arts en balade, c'est autre chose, puisque c'est chez elles, enfin, comme les arts en balade,
c'est les ouvertures d'ateliers
justement, et puis c'est complètement différent. Et vous ? Les gens, comment réagissent-ils en voyant vos couleurs ? Puisqu'apparemment, c'est ce qui prédomine.
Oui, ça se passe très bien, ça appelle à la curiosité. Alors oui, ça leur donne le sourire assez souvent,
puisque
c'est vrai.
Vous faites du détournement.
Oui, ça leur donne le sourire.
C'est déjà ça.
Ça les interpelle. Voilà, c'est un peu ce que je recherche de toute façon. Créer un...
De faire réagir.
C'est ça, absolument. Créer une réaction du public.
Oui, c'est fait pour ça aussi, là.
Oui.
Semble-t-il.
Oui.
Entre autres. D'accord.
Et donc, il y a assez bons retours, de façon générale. Voilà, il y a des curieux qui ont toujours un regard sur notre travail.
Et vous travaillez aussi en ce moment sur place ou pas ?
Alors oui, je travaille sur place. Justement, je fais des petits formats pour...
Dont les gens peuvent voir aussi comment vous procédez, quels mécanismes se mettent en place, tout ça.
Oui, tout à fait.
Ok, d'accord. Et donc vous travaillez tous là, plus ou moins
On essaie de s'occuper, journée. Et voilà, d'être...
Et d'être disponible pour les gens qui
D'être disponible et dans la création.
D'accord. Donc c'est jusqu'au 24, alors plutôt midi on va dire.
Ouais,
sinon à l'heure actuelle c'est de 10h à 19h sans interruption.
Tout à fait.
Donc c'est dans la galerie marchande, rez-de-chaussée et sous-sol, c'est ça.
Voilà, c'est ça, à tous les niveaux. On
tous
est
les
partout.
Niveaux, voilà, donc on peut que vous voir.
C'est ça, on ne peut pas nous louper.
D'accord.
Samedi et dimanche.
Oui, inclus, oui, je comprends bien. Et donc, c'est, comment dire, c'est ouvert à tout le monde, à toute personne curieuse, et c'est peut-être justement un bon moyen pour les gens qui ont peur de rentrer dans une galerie ou dans des musées, de, justement, de faire connaissance avec l'art et les artistes.
Ah mais complètement, on est très accessible, là, donc n'hésitez pas à venir nous rendre visite, ça nous fera vraiment très plaisir.
Et à bazarder.
Tout à fait.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
Au revoir. Merci, Clélia.
Au revoir.